Face à Duhamel avec ce soir l'ancienne ministre de la Santé, Madame Roselyne Bachelot, bonsoir.
Bonsoir les garçons.
Bonsoir Alain Duhamel. Bonsoir. Le président Macron inscrit l'IVG dans la Constitution, il détaille le projet de loi sur la fin de vie. Alors c'est vrai que ce sont des réformes sociétales d'un président de gauche. Il est de gauche Emmanuel Macron alors, Alain ?
Écoutez, il ressemble de plus en plus à Valéry Giscard d'Estaing. C'est-à-dire que, en ce qui concerne les problèmes de société, il est en tout cas progressiste. Il est progressiste parce que, bon, il y a eu la constitutionnalisation de l'IVG, il y a eu la PMA, maintenant il y a la fin de vie, de même que Valéry Giscard d'Estaing avait la loi Veil, le divorce par consentement mutuel, le vote à 18 ans, etc. De ce point de vue, il est progressiste. Il partage également avec Valéry Giscard d'Estaing la passion de l'Europe et l'idée de s'en servir comme d'un levier à la fois pour la France et pour sa satisfaction personnelle, pour son rôle personnel. En revanche, en matière économique, comme Giscard, c'est un libéral et un libéral assumé. Et en matière sociale, on voit très bien, ce qui est d'ailleurs le propre des libéraux, c'est-à-dire que le social doit être la conséquence de l'économie et pas l'inverse. Et donc, c'est un hybride. C'est un hybride idéologiquement.
C'est des réformes, en tout cas, qui sont soutenues par la gauche.
Oui, moi, ce qui me gêne d'abord dans ce débat, ce sont les paquets idéologiques. C'est-à-dire qu'il faut mettre dans le même paquet la constitutionnalisation de l'IVG, la PMA, la fin de vie, alors qu'on peut très bien avoir des approches très différentes sur chacun des sujets sans être catalogué à droite ou à gauche. Et ça, véritablement, c'est quelque chose qui me crispe profondément.
C'est pas un peu du cynisme politique d'un côté les progressistes, de l'autre les conservateurs ?
Alors, moi, ce que je dis, c'est que finalement, cataloguer cela à gauche, c'est consacrer la défaite idéologique de la gauche qu'on avait enregistrée dans la fameuse note Terra Nova de 2011, où la gauche, actant l'impossibilité de faire coïncider à la fois la démarche social-démocrate d'une partie de la gauche et la démarche révolutionnaire que la NUPES a essayé de surmonter, en échouant d'ailleurs, dit à ce moment-là, il faut cibler les jeunes, les femmes, les minorités, etc. Et au lieu de leur vendre le changement de la vie globale, on va en quelque sorte leur apporter des changements individuels, parce que effectivement, la souffrance de la caissière de supermarché qui quitte sa ligne de caisse à 22 heures, ou de l'ouvrière d'entretien à qui on ne peut plus proposer de changer la vie, on va lui proposer des changements sociétaux à la carte. Donc, c'est une profonde défaite idéologique de la gauche que de s'acheminer vers ces changements sociétaux. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressants. Et finalement, moi, ce que je dirais, c'est la bêtise de la droite qui s'oppose à la lâcheté de la gauche dans ce domaine. La bêtise de la droite de ne pas voir que ces sujets sont des sujets qui apportent des améliorations qui sont majoritairement demandés par la société.
Sur l'IVG, la droite était divisée.
Oui, bien sûr, mais enfin, globalement, quand on regarde le vote, oui, à ce moment-là, je parle du vote de 75, hein, oui. Je parle pas du vote de...
Le dernier.
Du dernier, même s'il y a eu pas mal de réticences aussi, et que...
Il y a plus de LR que de Rassemblement National qui ont voté contre.
Voilà, exactement. La bêtise de la droite de pas voir à quel point, finalement, l'organisation de la société relève d'une démarche de la droite, et la défaite idéologique de la gauche devant l'incapacité à surmonter ses fractures.
Oui, en l'occurrence, moi, ce que je trouve intéressant, c'est ce qu'il y a d'atypique chez Emmanuel Macron comme ce qu'il y avait d'atypique chez Valéry Giscard d'Estaing. C'est-à-dire que, justement, ils ne sont pas réductibles aux critères habituels, aux critères classiques gauche-droite. Ils sont transversaux.
Critères dépassés.
Moi, je n'utilise pas le mot gauche en l'occurrence, mais le mot de progressisme. Ils sont progressistes en matière de mœurs, ils sont progressistes en matière d'Europe, et ils sont conservateurs, ils sont libéraux en matière économique et sociale. D'une certaine manière, ils ont des personnalités dissociées. Bon, ils ont l'air de bien vivre avec quand même, mais c'est inhabituel. Et les deux, à deux générations d'intervalle quand même, les deux sont complètement atypiques par rapport aux critères habituels.
Et est-ce que ça reflète l'état de l'opinion française ?
Alors,
les Français sont-ils vraiment des libéraux ?
Alors, les Français n'ont jamais été des libéraux dans leur majorité, évidemment. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, s'il y avait encore un point commun à relever entre Emmanuel Macron et Valéry Giscard d'Estaing, c'est qu'à la fin de leur mandat, ils se heurtent, en raison des circonstances économiques, très difficiles dans les deux cas, à une très forte et commune impopularité. Donc, il faut les regarder comme des atypiques qui ne sont pas... classables, on peut pas les mettre sur une étagère entre le sel et le poivre. Ils sont à la fois le sel et le poivre.
On peut pas tout à fait comparer l'état de l'opinion face aux réformes de Valéry Giscard d'Estaing et l'état de l'opinion face aux réformes en fait pilotées par Emmanuel Macron. On voit qu'il y a un très grand consensus de l'opinion publique. Bon, l'euthanasie, c'est 87% des Français qui sont pour.
Il y a pas de débat.
L'inscription de l'IVG dans la Constitution. Il y avait un débat chez certains réactionnaires, mais en fait, c'était tout à fait accepté par l'opinion publique.
Donc en fait,
et même la PMA.
C'était plus facile pour Emmanuel Macron que pour Giscard par rapport à son opinion publique.
C'est plus facile pour Emmanuel Macron que pour Giscard. Et puis, Valéry Giscard d'Estaing avait une majorité qui, au moment de l'IVG, s'est fortement opposée à lui, ce qui n'a pas été le cas de Renaissance. Puis, alors, l'énorme avantage dans la situation où nous sommes, c'est que pratiquement, ce sont des réformes qui coûtent rien.
Voilà.
Et ça, c'est quand même un avantage assez considérable. Pardon d'être un peu cynique.
Qui ne coûte rien, mais qui apporte quelque chose.
Voilà, c'est ça.
C'est les préoccupations majeures des Français. C'est des sujets intéressants. La caissière, je ne suis pas sûr que le matin, je puisse arriver à mourir dans 40 ans.
La question de l'avortement, ça a quand même été une question qui, pour beaucoup de femmes, était quelque chose
d'important, de dramatique. Attendez, je minimise pas le progrès qui se présente.
Est-ce que c'est par conviction ou par circonstance?
Je pense que c'est par conviction et que il se trouve que compte tenu de circonstances économiques dans les deux cas très difficiles, ils sont bien contents de pouvoir avancer sur un terrain où là les questions budgétaires n'entrent pas en ligne de compte. Alors oui. Bon, cela étant, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ce que sont les réactions en général
à ce qui
est proposé maintenant et qui va être discuté. Alors,
est-ce que je peux ajouter quelque chose ? Il y a aussi, dans cette affaire, une évolution de la société.
Personne ne serait capable de vous empêcher d'ajouter quelque chose.
Bon.
Il y a aussi une évolution consumériste de la société. On veut avoir des droits à la carte. Ça ne veut pas dire qu'on s'engage dans cela. On veut pouvoir avoir accès à la PMA, même si on n'y fera jamais appel. On veut avoir accès à l'IVG, même si on n'y fera jamais appel. Et on se dit finalement, je ne sais pas ce qui va se passer. Moi, ce qui me frappe d'ailleurs, c'est des gens qui réclament ce droit, par exemple, sur de l'aide active à mourir, et qui... au pied du mur, si j'ose dire, ayant accompagné un certain nombre de personnes en fin de vie, en fait, après l'avoir réclamé quand ils étaient en bonne santé, n'ont absolument pas voulu y faire appel.
Oui, mais
donc, il y a une évolution individualiste et consumériste de la société qu'il faut prendre en compte.
Non, mais qui existe. Mais je suis tout à fait d'accord qu'on demande des droits qu'on n'a pas forcément, le moment venu, l'intention, choix, même la possibilité de les utiliser, bien sûr. Mais ça fait partie aussi quand même de l'évolution de la société. Et c'est vrai que... plus les obstacles économiques, et alors en plus militaires maintenant, se dressent, et plus, évidemment, la tentation de trouver un autre terrain.
C'est pas une diversion politique aussi ? Ça permet aussi d'obtenir des victoires, on va dire, politiques, puisqu'il y a un consensus, loi passera sans doute.
Moi, je ne crois pas que ce soit tellement la question des dividendes politiques pour une raison très simple. C'est d'une part que ça ne les rend pas plus populaires, et d'autre part que ça n'est pas là-dessus que se fera le vote. Le vote aux élections européennes, il ne se fera pas du tout.
Ça donne un bilan présidentiel. Il travaille pour l'histoire.
Pour leur image, après coup, pour ce qu'on appelle de façon un peu pompeuse et un peu exagérée aussi, la trace dans l'histoire, c'est vrai que ça fait bon effet.
Voilà.
Bon, mais ça n'est pas électoral. je crois que les élections européennes là vont se faire comme d'habitude sur le pouvoir d'achat, sur l'inflation, sur l'insécurité. Malheureusement, probablement pas du tout sur l'Europe. Peut-être pas tellement sur l'Ukraine, et en tout cas pas du tout sur ce qui peut concerner les lois sociétales.
Alors, de toute façon, en quelque sorte, le consensus empêche d'en prendre le bénéfice politique, parce qu'on dit, oh, il n'y avait pas de débat, donc il n'y a pas de combat. Je suis un petit peu moins d'accord sur la fin de vie. Moi, je pense que sur la fin de vie, il y aura un débat beaucoup plus approfondi, d'abord sur les modalités de la fin de vie. On a vu que oui. Jean Leonetti, qui est vraiment quelqu'un de très grande qualité, qui a beaucoup réfléchi à ces problèmes, a pointé un certain nombre de difficultés de mise en œuvre.
Claes aussi.
Et Claes, puisque c'est d'ailleurs la loi Claes-Leonetti.
Non, parce que je dis ça parce que je l'ai entendu tout à l'heure.
Voilà, exactement.
C'est et la puis, dernière loi sur ce sujet.
Il y a un certain nombre de militants, comme Jean-Luc Romero, qui est à la tête de la droit à mourir dans la dignité, la DMD, qui a dit on ne va pas assez loin. Et puis toutes les églises, toutes les religions, plus exactement.
Alors, justement.
Ah ben, il m'a parlé du protestantisme.
Justement, on va y venir. On va parler des
protestants.
On va les protestants, pardon. Justement. Ce qui est intéressant, c'est de voir la différence de réaction entre catholiques et musulmans, entre l'Église catholique et le recteur de la mosquée de Paris, parce qu'il ne faut pas généraliser à leurs ouailles.
Oui, c'est ça.
D'un côté, et de l'autre côté, Chaim Corsia, grand rabbin de France, et les protestants qui sont, disons, plus réticents. Plus nuancés.
Alors, justement, puisque vous en parlez, on va justement écouter la réaction du culte catholique.
Quand le pronostic vital est engagé, la mort n'est pas déjà là. Et beaucoup de nos auditeurs savent, quand on accompagne une personne en fin de vie, il se passe des choses décisives dans le dialogue mutuel, dans les derniers moments, dans les dernières heures. Et on ne peut pas parler de fraternité quand on répond à la souffrance par la mort. Même le Conseil national d'éthique, qui avait ouvert une porte vers la mort provoquée, commence par dire qu'il faut aller dans la mise en œuvre la plus large possible des soins palliatifs. Vous voyez, moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est que, et en dépit de ce qu'affirme le président, mais qui n'est pas crédible, je trouve, dans le contexte qu'il a choisi, eh bien, on a l'impression que, dans la Startup Nation, les personnes non productives n'ont plus le droit de citer.
Oui, alors je vais vous dire, ça m'a énormément choqué d'entendre ça. Parce que l'idée, il ne le dit pas directement. Bon, ça fait quelquefois partie des méthodes ecclésiales, de laisser entendre sans le dire vraiment. Bon, mais l'idée, c'est de dire, et si derrière ça, il y avait de l'indifférence, voire du rejet de ceux qui sont trop âgés, trop malades, etc.
Et ne sont plus
utiles à la société. Alors ça, franchement, ce genre d'argument... D'abord, d'un prêtre, je trouve ça assez étonnant, quand même. Je trouve que c'est une absence d'humanité. Et ensuite, l'idée de dire, il y a une manœuvre, le côté un peu complotiste, enfin. Vraiment, ça m'a choqué quand j'ai entendu
ça. Oui, on a l'habitude de ce genre de travestissement idéologique de la part de l'Église catholique. C'est pour ça que...
Comment ?
Oui, je dis le mot et je pense que Alain l'a exprimé de façon plus fleurie.
Oh non,
j'étais vraiment choqué. Il a tout à fait raison.
En plus, Monseigneur Rouget,
on a l'habitude que l'Église s'arrange avec ce genre de.
En plus, Monseigneur Rouget, c'est quand même, il est censé être un des espoirs de l'épiscopat français
et d'être un des plus ouverts.
Enfin, c'est pas non plus...
Sur certains sujets.
Pardon, mais vous êtes étonné d'apprendre que l'Église catholique...
Ah bah du tout, je les connais comme mes pieds.
Ils ont le droit de le dire.
On peut dire des choses en appelant à la prudence, sans faire qui font la promotion de la loi,
un procès,
je dirais presque un procès en inhumanité.
C'est
le terme exact. Et ça, c'est profondément choquant. Je veux espérer que M. Rouget reviendra sur ce qu'il a dit.
De débat houleux au Parlement ou pas sur cette histoire?
Moi, je pense que il y aura d'abord un vrai débat au Parlement. Oui. Je pense qu'ils vont vraiment travailler là-dessus, parce que c'est des sujets qui, de toute façon, concernent tout le monde directement, indirectement. Mais oui, et puis chacun a pense à des exemples familiaux, amicaux, etc. Donc, je pense qu'il y aura ça. Et d'autre part, je crois qu'il y aura un désir d'une partie des élus d'améliorer le texte, d'améliorer les propositions.
Et d'ailleurs,
je me suis demandé si la réaction de l'Église de France, l'Église catholique, n'était pas un petit peu préventive pour essayer justement de dissuader, de renforcer et de durcir le texte. Voilà.
Parce que on voit bien qu'à partir des présupposés que Emmanuel Macron a distillés à la fois dans La Croix et dans Libération, qu'on ouvre des débats tout à fait importants. Un discernement plein et entier, comment on le définit ? Une maladie incurable.
Oui. Bon. Faut-il faire une liste des maladies incurables ?
Un pronostic à court ou moyen terme ?
Oui, c'est le moyen terme qui est ambigu.
Qu'est-ce que c'est un moyen terme ? Oui. C'est un an, c'est deux ans, c'est etc. Des souffrances réfractaires au traitement. Il y a quand même des chantiers qui sont ouverts, ne serait-ce que dans la définition de l'aide active à mourir. Est-ce que c'est une euthanasie, un suicide assisté, l'appel à des soins palliatifs ?
Quelle est la différence entre euthanasie et suicide assisté ? Parce que
c'est-à-dire que le suicide assisté, il faut que la personne soit activement en mesure de se donner
c'est
la mort.
Qui se donne la
on
mort.
Lui donne une substance, par exemple une substance létale qu'elle va avaler avec une paille, mais c'est elle où on lui donne une perfusion et c'est elle qui appuie sur le bouton qui met la perfusion en marche.
L'euthanasie, c'est le médecin.
Et l'euthanasie, c'est le médecin tout seul sans l'aide du malade.
Merci Alain Duhamel, merci Rosine Bachelot.